La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info pour un numéro un peu particulier, alors que Radio Présence a lancé son Radiodon 2025. Trois jours de programmation spéciale durant lesquels nous comptons sur vous pour nous aider à financer le fonctionnement et le développement de notre radio afin de continuer à vous proposer des émissions comme celle-ci. Et comme d'habitude, je reçois trois invités pour débattre de l'actualité nationale. Je salue Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Je salue également Philippe Faureau, historien et universitaire, producteur de l'excellente émission Les Fenêtres de l'Histoire sur Radio Présence. Et je salue enfin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Bienvenue à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Avant d'annoncer le premier sujet de cette émission, je rappelle aux auditeurs qui souhaitent soutenir notre radio qu'ils peuvent faire une promesse de don en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Il y a aussi la possibilité de faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Ceci étant dit, le sujet qui occupe beaucoup les esprits en France depuis une semaine tourne autour de ce qu'il est convenu d'appeler la menace russe. Tout a commencé avec le discours du général Mandon, chef d'état-major des armées, devant les maires de France, où il a évoqué la nécessité pour notre pays d'accepter de perdre ses enfants en cas de conflit contre la Russie où la France serait impliquée. Des mots qui ont suscité beaucoup d'émoi au sein de la classe politique et dans l'opinion publique de manière générale. Mardi, Emmanuel Macron s'est exprimé à son tour sur RTL sur la question de la menace russe et il a tenu à supprimer toute idée qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine, en insistant cependant lui aussi sur la nécessité de renforcer l'armée française et de montrer que, je le cite, nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus. Comment avez-vous réagi personnellement à la petite phrase du général Mandon dans le contexte de son discours, il faut le préciser, et croyez-vous aussi, comme le président de la République, que la Russie est la puissance qui nous menace le plus ? Marie-Christine Monnoyer.
Bonjour à tous. Je crois que quand un général prononce un discours, il ne faut peut-être pas s'arrêter uniquement sur trois mots et qu'on est obligé d'intégrer l'ensemble de ces trois mots dans l'ensemble de son discours. Et un général, lorsqu'il parle, il évoque l'ensemble des personnes dont il a la responsabilité, qui aujourd'hui sont sur de multiples terrains. Et quand on parle de perdre ses enfants, c'est tous ceux qui sont actuellement en poste, tous ceux qui pourraient être en poste, tous ceux qui ont été en poste dans le passé. Et nous avons tous, le 11 novembre, regardé sur le monument aux morts de nos villages ou de nos villes le nom de tous ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. En règle générale, ils étaient parfois presque des enfants, puisqu'ils avaient tout juste 20 ans. Donc la France a toujours, à l'occasion des différents conflits, eu à supporter la perte d'un certain nombre de ses enfants. Je pense que lorsque le général Mandon s'est exprimé, il n'évoquait pas le fait d'envoyer aujourd'hui des jeunes de 18 ans dans un conflit quelconque dont ils pouvaient ne pas revenir. Donc c'est une phrase qui, à mon avis, a été utilisée pour faire peur à ceux qui aujourd'hui, soit ont 20 ans, soit sont les parents ou les grands-parents de jeunes qui ont 20 ans. En revanche, ce que nous savons tous, c'est que s'il y a un conflit, certains ne reviendront pas. Et dans ces conditions, la France perdra des enfants. Nous nous souvenons qu'en 1914, entre 14 et 18, nous en avons perdu 1 million. Alors, c'est une phrase qui ne doit pas être plus inquiétante que cela. Ceci étant, est-ce que c'est parce qu'il y a une menace russe que le général Mandon a exprimé cette phrase ? Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dans une période de paix tranquille. Nous sommes dans une période dans laquelle en Europe, il y a la guerre, et qu'en Europe, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui une guerre hybride. C'est un drôle de mot, guerre hybride, mais ça veut dire qu'on fait la guerre autrement, ou que l'on cherche à faire peur à ceux dont on se dit qu'on va tester la réactivité demain, aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Lorsque des drones survolent les aéroports danois, c'est pas pour leur faire prendre l'air. Lorsque des sous-marins se promènent dans la Manche, c'est pas pour aller voir les poissons. C'est parce qu'on a envie de montrer qu'on est là et qu'on est capable de. Est-ce que c'est la principale menace qui nous agresse? Je ne sais pas, mais celle-là, elle existe. Elle existe et on peut considérer qu'elle est légère puisque finalement, le grand peuple de Russie n'a pas réussi en 4 ans à vaincre le petit peuple d'Ukraine. Les Russes sont 140 millions, les Ukrainiens 25. Monsieur Poutine pensait qu'il irait très vite et que ce serait, je ne vais pas dire une promenade, mais enfin que la question qu'il voulait régler serait réglée rapidement. Ça n'est pas le cas. Est-ce que cela doit nous rendre tranquilles, puisqu'au fond, nous sommes plus nombreux que l'Ukraine, l'Europe est plus solide que le petit peuple ukrainien? Peut-être. Mais ce qui me paraît important, c'est de se dire que depuis un certain nombre d'années, nous n'avions jamais eu des drones qui viennent nous voir, des voies ferrées qui sautent et des avions qui s'égarent pendant une demi-heure dans 20 minutes, dans un espace aérien qui n'est pas le leur. Et pour moi, ça, c'est inquiétant.
Alors, première intervention donc, de Marie-Christine Monnoyer par rapport aux deux questions que j'ai posées. Je vais passer la parole à Philippe Faureau. Donc, d'abord, réaction au mot qu'a utilisé le général Mandon, donc le chef d'état-major de nos armées, sur cette possibilité qu'il faudrait accepter de perdre nos enfants en cas de conflit avec la Russie ou un autre pays d'ailleurs, et puis sur le fait que ce serait aujourd'hui la menace russe qui serait la plus inquiétante pour notre pays. Philippe Faureau.
Alors effectivement, ça a été une phrase remarquée. Alors, l'historien que j'essaye d'être se méfie des phrases que l'on coupe en évitant le reste du discours. L'historien essaye de recontextualiser et de préciser l'ensemble du discours. Mais effectivement, c'est une phrase forte. Alors, est-ce qu'un chef d'état-major peut s'exprimer comme cela? C'est vrai que dans une démocratie, on a tendance à penser que ce sont les politiques, les ministres, éventuellement le chef de l'État, le Premier ministre, qui sont à même de tenir des discours de vérité. Évidemment, ce sont des discours de vérité difficiles pour les politiques. C'est-à-dire que s'ils le pensent fermement, ils doivent tout de même prendre en compte l'opinion, les futures élections. Un militaire n'a peut-être pas, évidemment, cette préoccupation. Je crois que si le général Mandon le penser sincèrement, ce dont je ne doute pas, il me semble qu'il a eu raison de dire quelque chose. Voilà. Il aurait été dans l'hypocrisie si vraiment il n'avait rien dit. Et je voudrais faire un petit rappel historique et compléter ma réponse. 1938, après Munich, l'opinion publique était extrêmement satisfaite. Elle était heureuse que la paix ait été préservée. Et Winston Churchill prend la parole le 5 octobre aux communes. Et il dit d'ailleurs qu'il comprend tout à fait la réaction des Britanniques. « Je n'en veux pas à nos braves et loyaux compatriotes », dit-il, qui ont exprimé leur joie. Mais il rajoute un peu plus loin. « Mais n'allez pas croire que les choses vont en rester là. Nous ne faisons que commencer à payer. » Ceci n'est que la première gorgée, le premier avant-goût d'une coupe amère qui va nous être présentée année après année, sauf si, dans un suprême sursaut de force morale et de vigueur martiale, nous nous dressons à nouveau et reprenons, comme par le passé, la défense de la liberté. Il annonçait que des Britanniques allaient tôt ou tard payer de leur vie, sans doute. Bon, ça, c'est un homme politique qui, effectivement, annonce le pire et prévoit le pire. Ensuite, sur le contexte, la Russie, évidemment, nous, Français, nous avons du mal à s'imaginer une attaque directe contre la France. Mais si j'étais à Varsovie, ou sans doute encore plus dans les pays baltes, j'aurais sans doute une vraie peur. Et pour nos responsables, la question qui se pose peut-être, et qui est redoutable, c'est s'il y a vraiment un esprit impérial actuellement à Moscou, est-ce qu'après l'Ukraine, il n'y aura pas la volonté de récupérer des provinces où il y a des minorités russophones, donc les pays baltes ou la Moldavie? Et à partir de ce moment-là, que feront les Européens? Que fera l'OTAN? Et donc, effectivement, je ne sais pas quel est le danger exact de la Russie, parce que je n'ai pas les moyens de le savoir, mais je me mets à la place de nos alliés, tout simplement, et c'est vrai que la Russie peut apparaître comme inquiétante, malgré la main sur le cœur.
On sait tous que dans les pays baltes ou en Pologne, on s'inquiète, évidemment, mais de tout temps. Hein.
C'est la longue mémoire de l'histoire. Donc, est-ce que la Russie est un danger?
Elle l'est par le fait que nous appartenons à l'OTAN.
Et voilà,
comment on peut intégrer de l'OTAN?
Elle l'est pour des alliés et pour des peuples amis. Et donc, est-ce que nous sommes un isolat qui pouvons ne pas réfléchir à cet éventuel risque?
Oui. La question, c'est si effectivement les troupes russes mettaient un orteil sur le territoire balte ou polonais, l'article 5 du commandement intégré de l'OTAN fait que tous les membres sont censés intervenir pour s'interposer. Jean-Baptiste de Scorail, alors vous, d'abord, les mots du général Mandon, est-ce que vous les avez trouvés malheureux ou est-ce qu'il a dit ce qu'il fallait dire?
Il a dit ce qu'il fallait dire. Alors, je vais revenir déjà sur deux choses. La première, je vais situer un peu le contexte. Je suis officier de réserve, un père d'officier en Roumanie, dont un fils est parti en Roumanie la semaine dernière, ami d'un soldat mort à 20 ans au Liban en 1983, et correspondant défense de la ville de Toulouse. Correspondant défense, c'est-à-dire que je suis l'élu chargé des affaires militaires de la ville de Toulouse. Donc, quand j'écoute ce qu'a dit le général Mandon, bien sûr qu'il a raison de dire les choses. Il faut dire les choses. Alors, il y a une levée de bouclier des maires, etc. Mais je tiens à rappeler, comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, qu'au 11 novembre, on était devant les monuments aux morts, que sur les monuments aux morts, il y a marqué le nom, quelquefois l'âge. Je prendrai le charnier de Bordelongue, pas très loin d'ici, dans lequel il y a des enfants de 18, 19, 20 ans qui sont morts. Et eux, ils étaient partis librement puisqu'ils étaient dans la résistance. Et donc, il faut rappeler aussi à nos mères que malheureusement, nos enfants ou nous-mêmes, on sera peut-être appelés un jour à essayer de protéger la France de l'intérieur. Et se rappeler que, effectivement, nous avons des tas de jeunes qui sont morts, y compris pendant, bien sûr, la guerre de 14, mais après aussi, et volontairement, qui se sont consacrés à leur patrie pour défendre, effectivement, leur liberté. Donc, je crois que tous ces maires, c'est bien gentil, mais il faut qu'ils comprennent aussi que notre monde est un monde difficile, que le général Mandon a raison de dire les choses. Alors, effectivement, ma femme, elle ne l'entend pas comme ça. Et il faut séparer la parole du général Mandon de celle du président de la République, même si elles sont liées, forcément. Et je crois que si le général Mandon n'avait pas dit ça, il n'aurait pas dit la vérité. Et je crois qu'on se mettait encore la tête dans le sol.
Donc, il fallait créer un choc dans l'opinion.
C'est indispensable. Attention, le général Mandon n'a pas parlé des Russes ou... Il a parlé de conflits éventuels. Le conflit, il est peut-être
de
la Russie.
Et de la nécessité de renforcer nos armées.
Il peut être aussi du sud de la Méditerranée, quand on voit ce qui se passe effectivement à l'heure actuelle. Donc je crois qu'il faut qu'on soit prêt. Et il faut aussi que les Français se remettent à réfléchir sur le devoir que l'on a et qui peut arriver jusqu'à la mort.
Oui, alors je vais...
Je rappelle qu'un soldat, il fait pour tuer. Hein. C'est quelque chose qui est important, que le disait le général, l'ancien chef d'état-major des armées. L'armée, elle est là pour, malheureusement, elle est là pour tuer, c'est son métier. Elle n'est pas pour là pour faire du maintien de l'ordre, comme le font les gendarmes ou les policiers.
Alors, juste une petite réaction à ce que vous venez de dire. Quand Emmanuel Macron dit que la menace principale pour notre pays, c'est la Russie. Est-ce que vous le suivez là-dessus ou est-ce que vous dites, attention, non, il n'y a pas que ça?
Moi, je ne le suis pas là-dessus parce que, au fond de moi-même, je ne suis pas macroniste. C'est que je trouve qu'il est un peu va-t-en-guerre et que je crois qu'il faut quand même être capable de prendre du recul. Il y a d'autres menaces. Donc, voilà, ce que je suis, c'est plutôt la parole du chef d'état-major des armées qui est en train d'expliquer les choses. Mais avec ça, je pense que le président de la République fait des annonces. Et on ne peut pas lui reprocher de le faire, il a raison de le faire. Mais ce n'est pas en ciblant un pays, là-dessus je prends un peu de recul sur les choses, même si je suis bien sûr contre cette agression inadmissible contre l'Ukraine, mais je crois qu'il ne faut pas cibler un pays plutôt qu'un autre. Il faut se préparer à une tâche globale.
Nous allons poursuivre ce débat. Je refais d'abord un appel aux dons à tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez soutenir notre radio financièrement, vous pouvez faire vos promesses de dons en appelant dès maintenant le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Autre possibilité, vous pouvez faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Donc Emmanuel Macron s'est exprimé mardi sur la menace russe. Il s'est aussi exprimé aujourd'hui en Isère. Alors, menace russe ou pas sur la France, on peut peut-être tous se mettre d'accord pour dire qu'il est temps de réarmer notre défense et de renforcer notre armée. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, donc, alors qu'il était en déplacement dans les Alpes, a rappelé ce qu'il a déjà annoncé mardi, mais là, il a précisé les choses. Il veut la création d'un nouveau service militaire volontaire. Donc, il a parlé aujourd'hui, mardi, il avait déclaré qu'au moment de la guerre hybride, il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment elles fonctionnent, et qu'ils participent à la réserve, et que nous raffermissions la nation. Hein, ce sont ces termes, raffermir la nation. Alors, ce nouveau service militaire commencerait dès 2026. Il serait d'une durée de 10 mois. Les jeunes seraient rémunérés 800 euros par mois minimum, hébergés, nourris. Ils disposeraient d'un uniforme, d'un équipement. Ils auraient un statut militaire. Est-ce que vous pensez que relancer un service militaire, c'est une bonne idée à même de raffermir la nation, selon l'expression d'Emmanuel Macron? Philippe Faureau, vous qui êtes enseignant.
Oui. D'abord, je constate que la question du service militaire, elle est largement européenne maintenant. J'ai l'impression que de nombreux pays ont adapté leur défense avec un service militaire. Je pense aux Finlandais, je pense aux Suédois, aux Norvégiens, aux Danois. L'Allemagne a un vrai débat sur la question de la défense et donc des forces armées allemandes. Et la question donc, se pose désormais sur la France. Alors, c'est vrai qu'il faut bien dire que les dernières années du service militaire obligatoire, un jeune Français sur deux y échappait quasiment,
oui,
pour diverses raisons. Donc, en fait, il était de moins en moins universel. Alors que dans l'esprit des hommes, en particulier à partir de la Troisième République, l'idée, c'était un peu de faire nation, de faire que les Français se mélangent, se rencontrent, et donc que la nation se retrouve au travers de son armée. Pour des raisons sur lesquelles peut-être on n'a pas le temps de revenir, mais le président Chirac avait décidé, pensant peut-être d'ailleurs que les dangers extérieurs étaient moindres, parce qu'il prend ça à l'époque où c'est le président Yeltsin, qui n'est pas perçu du tout comme un danger. Et donc, aussi peut-être pour des raisons budgétaires, il décide de mettre fin au service militaire. Alors, maintenant...
De le suspendre.
De le suspendre, oui.
Le terme exact, c'est suspension et non pas suppression.
Dans un premier temps, moi, je l'ai écouté tout à l'heure, il y a quelques minutes, il avait dit... Arrêtez, nous allons arrêter le service militaire.
Sauf qu'il a été suspendu.
Sauf qu'après, ça a été suspendu.
Faits. Oui, dans les faits d'ailleurs, il a été plutôt arrêté,
oui,
au demeurant.
C'est
bon. Alors, la question que je me pose, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on revienne à un service militaire où une classe d'âge
pour reprendre une vieille expression, seraient concernés. Parce que j'ai l'impression que le mot volontariat est un mot important. Et j'entendais qu'il faudrait 50 000 réservistes à l'échelle de la décennie 2030, si je ne me trompe pas. Donc,
80 000 en 2030, il voulait.
Ah, 80 000 en 2030, voilà. Donc c'est même plus.
La réserve passera de 40 000 à 80 000 en 2030.
Donc on dépassait effectivement les 50 000. Et puis la question... de toute manière, nos casernes aujourd'hui posent problème, c'est qu'elles ont en partie disparu. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas se permettre peut-être une armée de conscription comme on l'a connue.
Comme on l'a connue, oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les bâtiments.
Quels sont les bâtiments et les moyens
Il faut les former, il faut des formateurs, des instructeurs.
Ce que je crois pour terminer, c'est qu'il me semble tout de même qu'il y a peut-être parmi la jeunesse française l'idée qu'un engagement, un soutien à la nation, peut-être qu'il existe. Je n'en connais pas les proportions, mais je crois qu'il n'est pas totalement négligeable.
Oui, je crois aussi. Alors, Marie-Christine Monnoyer, c'est intéressant d'avoir l'avis d'une femme, mais une femme de militaire, je crois, et de carrière. Et une fille aussi, je crois, de militaire de carrière.
Alors... En fait, pour compléter ce qui vient d'être dit, il me semble que d'abord, il faut prendre la mesure du fait de la méconnaissance du métier des armes qui s'est installée dans notre pays avec la disparition du service militaire. Bon, on a dit disparition, voilà. De ce fait, pour une grande partie de la population, l'arme, et en particulier des jeunes gens, alors c'est évident pour les jeunes filles, n'est absolument pas connu. Qu'est-ce que c'est que travailler dans l'armée? Qu'est-ce que c'est qu'être militaire? Qu'est-ce que c'est qu'être soldat? En fait, seuls ceux qui ont épousé un militaire ou qui sont fils de militaires connaissent les contraintes, la nature de l'engagement
et le risque aussi.
Et le risque que cela représente. Et le connaissent dans toutes ses dimensions. Mon mari a été pendant 20 ans un pilote de l'armée de l'air française. Et il était pilote de reconnaissance aérienne. C'est-à-dire que tous les jours, il allait voler grosso modo à 100 mètres d'altitude, c'est-à-dire à un tiers de la tour Eiffel, pour apprendre à être capable d'aller faire des photos sur un terrain inconnu dans lequel il pouvait y avoir des personnes ou des équipements à risque. Vous vous doutez bien que savoir conduire un avion qui va un peu vite à 100 mètres d'altitude, ça suppose de s'entraîner beaucoup. Et en fait, le métier des armes, c'est d'abord un métier dans lequel on s'entraîne. On s'entraîne avec un risque. J'ai connu beaucoup d'amis qui sont morts. On disait... pas forcément en service aérien commandé, mais simplement en apprenant leur métier de pilote. Ceci est donc extrêmement peu connu. Et il me semble que dans l'idée du service militaire, qui n'est plus obligatoire, mais qui est un service militaire volontaire, il y a cette nécessité, cet intérêt, de faire connaître ce qu'est le métier des armes. Parce que si nous avions l'obligation d'entrer en conflit avec quelqu'un, c'est quand même mieux de savoir pour une bonne partie de la population ce que c'est. Parce que partir la fleur au fusil, comme en 14, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Savoir ce que ça représente comme risque. Alors, j'ai parlé du risque que courait mon époux en allant voler à 100 mètres d'altitude. Je peux vous dire comment moi je vivais, en tant qu'épouse, le fait de savoir que le risque était toujours là. Ce n'est pas tout à fait une vie comme les autres. Et je parle de ça parce que c'était son métier, mais c'est différent pour ceux qui sont dans l'armée de terre ou dans la marine, mais c'est toujours un petit peu la même idée. Donc il me semble que l'idée qui est lancée là, elle correspond aussi à un besoin qui est ne séparons pas un pays en disant il y a ceux qui sont payés pour se faire tuer c'est-à-dire les militaires d'active, et puis il y a les autres qui espèrent bien ne jamais y aller. Je crois qu'il faut que nous sachions ce que ça veut dire que le métier des armes. C'est pour ça que cette idée du service militaire, même si je comprends bien les histoires de casernes, de ceci et de cela, l'idée en elle-même, qui pour l'instant n'est qu'une idée, il faut qu'elle soit votée, il faut etc., etc.
Oui, parce que...
Mais l'idée en elle-même...
Macron n'a pas dit, mais faut que ça nécessite une loi quand même. Voilà. Il faut que la loi soit votée à la majorité.
Donc pour l'instant, on en est à l'idée. Et l'idée, la repousser d'un coup de sifflet bref ou en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» me paraît un peu étonnante, alors qu'aujourd'hui, on est dans une phase un peu complexe où, en plus, le métier des armes prend de multiples formes. Et j'ai entendu dans le discours du président de la République qu'on ne parlait pas uniquement de fantassins.
Hein ? Évidemment que non. Comme, en fait, il n'y a pas que l'infanterie sur le terrain. Là,
non, on parle de choses beaucoup plus compliquées.
Oui. Ben, il parle de guerre hybride. Hein.
Mais on parle de guerre hybride. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça va être cette guerre hybride ? Qu'est-ce que c'est que cette guerre hybride ? Qu'est-ce que peut être cette guerre hybride ? Il faut qu'on l'apprenne un peu pour qu'à la fois peut-être on en ait moins peur ou plus peur. Hein ? Mais pour ça, il faut qu'on le découvre. Et si un certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes décident d'aller le découvrir, c'est pas forcément une mauvaise idée.
Oui. Vous avez parlé de métier des armes, et je crois que le mot est juste. Un métier, ça veut dire que ça nécessite des compétences. Et oui. Peut-être qu'aujourd'hui, le métier militaire nécessite plus de compétences qu'il n'en a jamais nécessité. Jean-Baptiste de Scorail, alors vous connaissez ça un peu de l'intérieur.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Je trouve que c'est une excellente idée de refaire ou de redire que nous allons recréer un service militaire. L'annonce est belle. Moi, je préférais qu'il soit universel, je pense. Mais
donc, ça ne soit pas basé sur le volontariat,
non,
mais
que ça soit universel. Parce qu'une fois de plus, comme le disait un ami hier, c'est toujours les mêmes qui vont y aller. Oh. Et c'est un peu vrai. Toujours les mêmes. C'est-à-dire des gens qui sont patriotes, des gens qui ont été élevés dans l'amour de leur pays, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, au-delà de cette annonce, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment allons-nous financer ce projet. Bien sûr qu'on est tous pour. Mais quand on voit que nos officiers ou nos soldats...
Tout le monde n'en est pas pour.
Enfin, autour de la table, on va dire. Vous avez raison, Marie-Christine. Mais quand on voit que nos officiers et nos soldats n'ont pas les moyens de faire la guerre plus de 3 jours parce qu'il n'y a plus de centre de munitions, etc., etc., comment allons-nous faire pour pouvoir financer des nouveaux locaux alors que même nos soldats à l'heure actuelle ne sont pas bien logés ? Moi, je le regrette, mais la première chose que j'ai faite en 2014, quand j'ai été correspondant défense, c'est de demander par intérêt d'aller au premier RTP voir comment étaient logés nos soldats. Eh bien, ça n'avait pas changé depuis 1984, à l'époque où j'avais fait mon service militaire. Donc, si vous voulez, il y a un moment, on va bien, c'est une bonne volonté, il a raison, mais je ne sais plus combien de milliards ça coûtait, on a parlé de 15 milliards, je crois, ou quelque chose comme ça, je n'ai plus le chiffre, mais une somme astronomique. Comment allons-nous faire pour financer cela ? Effectivement, si...
Après, ce sont des choix politiques.
Hein, oui, non, mais ce sont des choix politiques.
Les priorités.
Ce sont des choix politiques, donc effectivement, il faut le faire. Mais moi, je préférais que ce soit une classe d'âge. Le problème, c'est que c'est un problème financier aussi. C'est qu'effectivement, entre ce qu'a annoncé 80 000 à 100 000 personnes
en 2030... Oui, alors il parle déjà de 2 000, 3 000 dès 2026.
Oui, on va voir. Après, il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir travailler. Parce que ces jeunes qui partent au service militaire, peut-être effectivement, ils auront des droits à la retraite, peut-être ils ont des choses comme ça, mais ils seront pénalisés par rapport à ceux qui auront peut-être un travail directement, qui pourront continuer leurs études, etc.
C'était déjà un peu le cas avant.
Oui, hein. Mais il y a un moment où il va bien falloir aussi remettre tout ça. Et là-dessus,
donc, moi,
je
pose d'équité aussi.
Beaucoup de questions parce que effectivement, l'équité, elle n'est pas là.
Ouais. Philippe Faureau, pour conclure sur ce sujet.
Oui, je crois qu'une des motivations de la fin du service militaire, c'est que l'on a cru, de toute manière, qu'il n'y aurait plus des conflits avec des armées de masse. C'est-à-dire que finalement, 1914-1939, c'était quand même des conflits où des millions d'hommes dans toutes les nations avaient été mobilisés.
La guerre totale, c'était la totalité d'une nation
absolument
était concernée.
Et je crois que dans les années 90, plus ou moins consciemment, on n'a plus cru justement à ces grandes guerres de masse et que c'était devenu des conflits extrêmement spécialisés.
C'est ça.
Où on aurait besoin non plus d'une nation en armes, mais plutôt de techniciens. Et
Maintenant, j'ai l'impression qu'en cette année 2025, on réfléchit sur effectivement quelque chose qui serait beaucoup plus massif qu'on ne l'imaginait il y a 30 ans.
Surtout qu'en ce moment, c'est une guerre de tranchées qui se passe en Ukraine.
Ah ben, en Ukraine,
et donc,
oui,
oui. Le problème, c'est que la guerre de tranchées, ben, c'était la même que celle que disait le chef d'état-major des armées, la même qu'en 1914. Oui. Donc, effectivement, vous avez raison. Je crois qu'on est parti sur trop de techniciens et qu'on a oublié que, malheureusement, ben, le corps à corps, ça existe encore.
Et une remarque à propos de partir la fleur au fusil. En fait, on sait maintenant que nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents sont partis, je dirais, graves, mais sans ces scènes d'enthousiasme que l'on pouvait voir dans les guerres parisiennes ont été un peu trompeuses. Dans les villages, les études ont montré que nos masses de paysans sont partis, je dirais, sans enthousiasme particulier. Et puis, ils étaient, eux, entraînés en 14. Alors, la stratégie des généraux de 14 ne s'est pas avérée la bonne. Mais c'était une armée qui était elle-même quand même assez formée. On venait de voter la loi des 3 ans même.
Absolument.
Donc, effectivement, en 1913, un grand débat parlementaire.
Oui. Nous allons clore ce premier débat. En tout cas, pour l'instant, nous savons tous qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la menace russe, même si ce n'est pas la seule. On se croit un peu revenu par moments au bon vieux temps de l'URSS, bon vieux temps, je me comprends. Avant de poursuivre cette émission, je rappelle aux auditeurs qui souhaitent soutenir Radio Présence qu'ils peuvent faire une promesse de don en appelant dès maintenant le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou bien faire directement un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Petite pause dans cette émission et rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour reprendre nos échanges. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monnoyer, Philippe Faureau et Jean-Baptiste de Scorail. Je vous propose maintenant de réagir à la thématique que nous avons retenue pour ce Radiodon 2025. Écoutons-nous les uns les autres. À Radio Présence, nous essayons d'être fidèles à ce principe d'écoute mutuelle sur notre antenne et dans nos émissions, mais il me semble qu'il est souvent mis à mal dans notre société de l'immédiateté des réseaux sociaux et de l'information en continu, où un sujet chasse l'autre, où tout n'est plus souvent que buzz et punchline. Est-ce que vous avez le sentiment, dans la France d'aujourd'hui, qu'il est encore possible de débattre, de discuter, de prendre du recul et d'apporter de la nuance, bref, de s'écouter les uns les autres avec respect et en toute liberté, en acceptant le désaccord et la contradiction? Jean-Baptiste de Scorail, vous qui êtes élu, vous êtes souvent confronté à cette question.
Oui, et ce que je remarque, alors j'essaye de ne pas le faire moi-même, mais ce que je remarque, c'est que malheureusement, les élus, quels qu'ils soient, y compris le président de la République, réagissent à chaud sur des événements, réagissent trop vite, sans prendre du recul sur les choses, sans écouter les uns les autres, et donc prennent des positions qui sont souvent dangereuses et qui entraînent des difficultés. Donc je crois que de ce côté-là, nous avons, nous les hommes politiques, un effort important à faire pour être capables à la fois d'écouter, mais surtout de ne pas réagir à l'instantané par rapport à un événement X ou Y, parce qu'on s'aperçoit que derrière, il y a des bévues qui sont faites, et après, il faut rattraper le travail.
Oui, alors est-ce que dans les débats, cela dit, je ne sais pas, dans un conseil municipal ou autre d'ailleurs, est-ce qu'on arrive quand même à s'entendre ou est-ce que c'est de plus en plus la cacophonie? Il y a des exemples à l'Assemblée nationale qui ne montrent pas vraiment ça. Hein.
Moi, ce qui me gêne, c'est toujours pareil, c'est les gens qui ont double langage. C'est-à-dire que quand on se retrouve en dehors du conseil municipal ou de l'Assemblée nationale, les gens se parlent, sont capables de s'écouter, de s'entendre. Par contre, quand ils sont face aux caméras ou face au public, ils se mettent à, en guerre face à son interlocuteur, alors qu'ils ont un autre visage en dehors. Donc je crois qu'il y a un moment aussi, il faut être en phase avec ce que l'on est, en phase avec les comportements que l'on peut avoir, et pas être face à une caméra et avoir une posture qui est quand même différente de celle que l'on a en commission. Et ça me gêne beaucoup dans la politique actuelle.
Alors nous avons la chance d'avoir ce soir deux universitaires, deux enseignants, même si Marc-Christine Monnoyer, vous n'enseignez plus, mais enfin, tout de même.
Depuis quelques mois seulement.
Voilà, mais vous intervenez quand même pas mal dans le débat public à travers, pas des colloques, des séminaires. Pour vous, on en est où aujourd'hui dans le débat public? Est-ce que le tableau est aussi noir que celui que j'ai un petit peu brossé tout de même?
Alors bon, je veux bien répondre. Ce qui me frappe, que nous soyons dans un amphi ou même dans un congrès, c'est un petit peu comme ce que disait Monsieur le député tout à l'heure.
Non, je ne suis pas député.
Il n'est pas député
peut-être
encore.
Peut-être bientôt, mais pas pour l'instant.
Nous lui souhaitons.
Ça va créer la zizanie, si vous dites ça.
Alors,
non, je suis adjoint au maire et conseiller départemental pour l'instant.
Voilà. Alors, Monsieur l'adjoint au maire, c'est qu'au fond, les personnes, quel que soit leur âge, réagissent extrêmement vite. Et même ne laissent pas celui qui est en train de parler finir sa phrase. Et donc, parce qu'on a entendu un mot ou qu'on a l'impression qu'une idée est lancée, on réagit immédiatement. Dans un amphithéâtre ou dans une salle de cours, c'est extrêmement fréquent. Et je l'ai même constaté en regardant chez des beaucoup plus jeunes que ceux qui sont mes étudiants, même dans une salle de classe avec des enfants de 14 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'accélération que nous connaissons avec les réseaux sociaux, c'est vrai, mais ne serait-ce qu'avec nos petits téléphones.
Oui, on est abreuvé d'informations en permanence.
Voilà, mais on réagit illico presto. Et donc ça, c'est tout à fait négatif en termes d'écoute et de débat. C'est effectivement un problème. Alors, est-ce que c'est général ? Ce qui m'impressionne, c'est que lorsqu'on est dans une structure productive, quelle qu'elle soit, moi je suis plutôt dans une université, quand il y a un problème à résoudre, on s'invective avant de discuter. Or, tout ce que nous apprend la philosophie, tout ce que nous apprend la sociologie, c'est d'abord de se taire et d'écouter. Et c'est très intéressant parce que les sociologues le disent, les philosophes le disent, pourtant ils ne pensent pas toujours la même chose, les sociologues et les philosophes. Mais ils nous disent, écoutez l'ensemble de la phrase. Si vous réagissez comme ça, très vite, c'est parce qu'en fait, vous avez l'impression d'être agressé par rapport à ce que vous pensez, vous. Et de ce fait, vous réagissez brutalement. Or, vous n'êtes pas forcément agressé. Pourquoi est-ce que nous avons si souvent le sentiment d'être agressé?
Même offensé, c'est souvent, on a
offensé,
parlé
de génération offensée. Etc. Il me semble que c'est ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que dans nos façons de parler, nous ne sommes pas fréquemment, quelque part, agressifs ou offensants? Et dans ces conditions, nous coupons le débat à la racine. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, même si aujourd'hui j'ai passé un certain temps à relire Hartmut Rosa, qui explique très bien cette question de l'aliénation et de la médiation qui peut nous conduire à la réalisation du débat.
Philippe Faureau, universitaire toujours en activité. Donc, je ne sais pas si vous organisez des débats parfois dans les amphithéâtres de l'université Toulouse-Jean Jaurès, mais bon, quel tableau vous faites de la situation aujourd'hui du débat public, qu'il soit d'ailleurs entre les politiques, hein, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, ou dans l'opinion publique, tel que ça fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou dans des amphithéâtres d'université?
Permettez-moi de commencer par une petite anecdote que je dois à un vieil ami qui avait discuté avec Michel Rocard dans les années 90, 3-4 ans après le départ de Michel Rocard de Matignon. Et il lui avait dit, mais monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans la vie politique actuelle? Et Rocard avait réfléchi quelques instants, il avait dit, nous manquons de temps pour réfléchir. Il avait dit, ce qui est bien, c'est quand on prend plusieurs jours pour analyser un problème et finalement prendre une décision. Tandis que, et nous étions au début des années 90...
Il y a 30 ans.
Maintenant, tout va très vite. Et on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir. Et c'est sans doute une des difficultés de notre monde politique actuel. C'est que
ils sont assaillis de nouvelles. Trump éternue, on le sait dans 2 heures. Et finalement, c'est sans doute un premier problème. Ensuite, deuxième problème, c'est effectivement alors, les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux transforment chacun d'entre nous en spécialiste de tout, où on réagit à brûle pour point. Et c'est encore plus net, me semble-t-il, dans l'habitude des chaînes d'infos. Vous avez des personnes que vous voyez quasiment tous les jours, qui sont spécialistes de tout et qui répondent finalement à une actualité immédiate. Or, je me méfie beaucoup de ceux qui sont capables de vous analyser dans la même émission la situation en Ukraine, la question de la justice, peut-être la défense,
la réforme des retraites.
Voilà. Et donc, on est quand même dans un monde qui s'est, de ce point de vue-là, profondément accéléré et où peut-être la place au débat, tel qu'on l'entend, est bien moindre. Alors, écoutez, moi, je vais réagir en citoyen. J'aime la chose publique. J'ai un grand respect pour les élus parce que, finalement, ils prennent de leur temps et je dirais la plupart sont des hommes de conviction et de qualité. Bon. Mais je dois avouer qu'effectivement, certains spectacles publics me désolent. L'Assemblée, alors je ne suis pas naïf, la Troisième République a connu, la Quatrième aussi, enfin bon, a connu c'était des débats extrêmement agités. Ouais. Mais je dois avouer que les questions au gouvernement deviennent, par exemple, souvent un jeu de rôle où finalement,
oui,
c'est à celui qui pose la question la plus offensive et qui va provoquer en retour une autre offensive. Bon, et là aussi, permettez-moi de réagir en citoyenne de Toulouse, et que M. de Scorail ne le prenne pas mal, mais les comptes rendus que je lis de certaines séances du conseil municipal me navrent.
Je ne le prends pas mal. Je ne vais pas vous en parler, oui, mais vous avez raison.
Mais ce qui s'est passé il y a 48 heures, en fait.
Hier, me
choque. Je ne comprends pas. Et quand on en parle, je dirais, avec des voisins, avec la famille, les Toulousains sont quand même extrêmement gênés par cette situation. Donc, il y a effectivement une difficulté à débattre, mais même si la démocratie, c'est la confrontation aussi. Et alors, je voudrais terminer parce qu'il se trouve que je travaille sur l'Italie contemporaine.
Oui.
Et que j'ai travaillé sur un homme pendant quelques années, Aldo Moro, démocrate chrétien.
Et publier un livre qui lui est consacré. Ouais,
merci.
Vous pouvez lire, vous allez le voir.
C'est gentil. Et par exemple, pendant 1 an et demi, il fait partie d'une commission de 18 députés de la Constituante pour débattre des textes constitutionnels. C'est quand même pas rien. Eh bien, il négocie, il discute avec des communistes, des socialistes, des libéraux, des républicains, etc. Et ils arrivent, et je crois que ça a été très formateur pour la démocratie italienne, à faire un texte en 1 an et demi qui fonctionne encore aujourd'hui, la Constitution italienne. Bon. Et deux autres exemples. Quand il est secrétaire général de la démocratie chrétienne, au début des années 60, il envisage d'ouvrir la majorité parlementaire au Parti socialiste. Ça prend 2 à 3 ans. 2 à 3 ans de discussion, de désaccord, de semaines où on ne se parle pas et on revient ensemble. Bon. Et puis enfin, le compromis historique, quand communistes et démocrates chrétiens, dans l'immense crise que traverse la démocratie italienne dans les années 70, ils sont capables, mais ça a pris 5 ans, de parler ensemble, d'établir une plateforme qui amènera en 1978, le jour même d'ailleurs de l'enlèvement d'Aldo Moro, les communistes à voter une investiture pour un gouvernement dirigé par le démocrate chrétien Andreotti. Je trouve que là, ils étaient en désaccord. Ils n'étaient pas d'accord sur tout. Il y avait de vrais débats. Mais ils étaient en capacité de voir, bon voyons, face à une situation délicate, essayons de trouver quelque chose.
C'était il y a près de 50 ans.
C'était ça.
Les choses ont un petit peu changé depuis, et pas seulement en Italie. Alors je refais un autre appel au don, là maintenant, à nos auditeurs. Donc je rappelle les promesses de don. Il faut appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 pour soutenir notre radio. Vous pouvez aussi faire un don directement en ligne en vous connectant à notre site internet www.radiopresse.com. radioprésence.com. Eh bien, puisqu'on parle de radioprésence, je vais un petit peu resserrer la focale sur cette émission. Est-ce que vous pensez qu'une émission comme la Mêlée de l'Info, et même l'antenne de radioprésence en général, offre un espace de liberté d'expression et de réelle écoute mutuelle entre les invités et les animateurs? Marie-Christine Monnoyer, vous êtes une habituée de notre antenne et de nos studios. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, en fait, moi, j'aime bien venir à Radio Présence dans cette émission. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes avis. Et que, en écoutant les avis des uns et des autres, je me dis souvent, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Et en fait, cette petite phrase, pour moi, c'est le début de la réflexion. Et c'est le début d'une analyse et peut-être d'un changement de position. Et je pense que, est-ce que c'est parce que je suis universitaire, parce que j'ai toujours été prof, je ne sais pas, mais c'est indispensable ce regard multiple. Donc si une émission de radio le permet, si elle permet à ceux qui interviennent, j'espère qu'elle le permet aussi à ceux qui écoutent.
Jean-Baptiste Scorac, vous êtes venu souvent aussi
dans
ce studio.
Alors moi, je suis très heureux. Alors, je ne veux pas flatter les deux personnes qui sont autour de la table, mais je suis très heureux d'être avec des universitaires parce que ça me permet de me poser. Parce qu'effectivement, nous, en politique, on essaye de ne pas, répondre rapidement, etc. Mais on le fait trop rapidement. Mais on s'aperçoit qu'ici, il y a un climat quand même qui est quand même assez serein. Moi, je suis souvent même avec des gens d'extrême gauche, etc. On sait se parler, on sait s'écouter, et c'est une bonne chose. Donc je crois que peut-être que c'est le climat de Radio Présence qui fait ça, mais qui nous permet aussi de prendre un instant et d'être capable de s'écouter les uns les autres, quels qu'ils soient, d'avoir et d'entendre ce que nous disent les choses. Et ça nous permet aussi, en politique, de comprendre, entre guillemets, notre adversaire d'une façon ou d'une autre. Et je crois que moi, ça m'a permis de connaître des gens sous un autre angle, peut-être, et d'arriver à mettre de l'humanité dans la politique. Et ça, je crois que c'est important, parce que cette humanité, il faut qu'on la garde du début à la fin, qu'on ne fasse pas croire aux gens qu'on est là pour faire du cinéma ou du théâtre.
Philippe Faureau.
Je crois que la radio favorise peut-être plus que la télévision les débats de fond, parce que d'abord, l'émission, par exemple, à laquelle nous participons, elle a une heure. Donc, on peut déployer des arguments, des raisonnements. Et je pense que les émissions de radio permettent justement, avec une distribution du temps de parole, de vrais échanges. Et puis, la radio a un autre avantage, c'est que très souvent, on ne nous voit pas. Alors que la télévision, je me demande si on n'est pas tenté d'être un peu cabotin, finalement, à la
présentation.
C'est ce qui se passe dans les conférences.
Et voilà, aussi, l'assemblée, ouais. Et oui, parce qu'on est vu. Alors bon, on a son électorat, donc qui peut être sensible à telle ou telle attitude. Moi, vous vous souvenez sans doute autour de cette table, le débat de 2017, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'était désastreux de ce point de vue-là, parce que effectivement, il y avait à la fois de l'invective, ça se coupé, des journalistes peut-être un peu débordés, et puis peut-être une candidate qui n'était pas préparée à ce type de joute. La radio permet vraiment effectivement d'avoir plus de temps et d'un temps d'écoute. Nous n'avons rien d'autre à faire et c'est heureux que d'écouter les personnes autour de la table. Et après, comme je le disais tout à l'heure, la démocratie n'est pas un consensus général sur tout. Elle est la confrontation, mais comme disaient les Grecs anciens, la parole est au milieu. Et à partir de là, cette parole, eh bien, chacun peut s'en emparer et véritablement débattre.
Alors, pour terminer et pour rester un peu sur ce qui est le sujet pour nous des trois jours, c'est tout de même de convaincre nos auditeurs de nous soutenir financièrement. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de faire un don à notre radio pour que des émissions comme celle-ci puissent continuer ? Marie-Christine Monnoyer, je vous demande un peu un travail de publicitaire. Là.
Il me semble que nous savons que nous avons besoin d'une radio multiple où des échanges importants s'effectuent. Il faut que la parole soit multiple. La démocratie, c'est la multiplicité. Radio Présence est une radio d'obédience chrétienne. Et
ce que nous assumons totalement.
Et donc, ça n'est pas France Inter, ça n'est pas RTL, ça n'est pas BFM, etc. Et donc, il faut que ce genre de radio continue à exister. Donc, pour cela, ben, il faut des moyens. Oui.
Jean-Baptiste de Squarail.
Il faut que cette radio reste libre. Et pour qu'elle reste libre, il faut qu'elle soit autonome financièrement. Donc moi, j'appelle tout le monde et je me permettrai de faire, comme je l'avais fait l'année dernière, un petit don en partant parce que je crois que c'est important que cette radio reste libre et qu'il faille continuer à la porter parce que je sais que la difficulté est là. On sait que nos diocèses sont en difficulté, qu'ils sont en support, mais il faut que vous soyez autonome.
Merci, Jean-Baptiste Scorail. Philippe Foreau.
Je suis tenté de faire une comparaison amoureuse. Quand on aime quelqu'un, on le lui dit et on le lui montre. Et la manière de lui montrer, c'est de lui faire une heureuse surprise, un cadeau, un séjour quelque part qui lui fera plaisir. Bien, je dirais, pour une radio, on ne peut pas l'amener quelque part, mais on peut lui montrer qu'on y est attaché, peut-être en faisant un don, parce que finalement, c'est une manière de la faire vivre au quotidien. Donc je dirais, si vous aimez Radio Présence, ben, montrez-le et dites-le.
Oui, comme disait le poète Pierre Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je crois que c'est ce que vous vouliez nous dire. Il nous reste un tout petit peu de temps. Si vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule, c'est une rubrique qu'on peut parfois assumer en fin d'émission lorsqu'il reste un peu de temps. Alors peut-être Marie-Christine Monnoyer, en général, vous avez toujours un coup de cœur ou un coup de gueule.
Non, aujourd'hui, je n'ai pas un coup de cœur ni un coup de gueule. Je vais dire si, quand même. Cela m'a choquée qu'avec cette petite phrase du général on la coupe de son contexte. Ça m'a profondément énervée. Parce que je suis trop attachée à la démocratie pour qu'on s'amuse à saucissonner les phrases dans un contexte et qu'ensuite on en parle et on en reparle et on en re-reparle comme si c'était la totalité de sa pensée. Et ça m'agace.
Jean-Baptiste de Scorail.
Bah moi, le coup de cœur, c'est qu'on arrive dans les périodes de Noël et que voilà, la ville, à partir de demain, va s'apprêter à être dans ses plus beaux, je dirais, atouts. Et j'espère que les Toulousains et l'ensemble des gens de la région pourront profiter des fêtes de Noël. Et pour moi, bah voilà, mon coup de cœur, il est « Profitons de ces semaines à venir ». Même si la France est en difficulté.
On passe souvent en famille ou avec des amis, et effectivement, c'est vous avez ça. Raison. Il faut savoir en profiter, Philippe Foreau.
Alors, un coup de cœur, parce que, bon, j'enseigne effectivement à Jean Jaurès, mais je suis aussi diacre dans notre diocèse. On est sur une radio chrétienne, donc je n'ai pas à m'en cacher. Et le coup de cœur, c'est pour le voyage, le premier grand voyage apostolique de Léon XIV.
Oui.
Qui est arrivé aujourd'hui en Turquie. Et il va aller, effectivement, à Nicée. Or, dans l'histoire de la chrétienté, le concile, ça va être extrêmement important. Il va visiter effectivement ce pays très 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 largement musulman aujourd'hui, mais ensuite il va au Liban. Et une pensée, je dirais, de cœur avec cette population libanaise qui a traversé tellement de souffrances, de difficultés, où d'ailleurs nos militaires étaient justement en 1983. Et donc j'ai une pensée pour le voyage du Saint-Père.
Et c'est le credo qui a été créé à Nicée.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est et complété à Constantinople.
Voilà. Concile voilà, de Nicée.
C'est ça.
Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette 210e, mais les de l'info, c'était le 210e numéro. Je vous remercie bien sûr tous les trois d'en avoir été les invités. Ça a été encore une fois un plaisir de vous recevoir et d'animer nos débats à l'antenne. Je refais une dernière fois un appel aux dons. Je rappelle le numéro pour faire vos promesses de dons, le 05 62 48 63 00. Et les dons en ligne se font directement sur notre site internet www.radioprésence.com. Merci à Jonathan Botello qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence justement. Je remercie enfin nos auditeurs de leur fidélité à cette émission, en espérant que l'écoute de La Mêlée leur donne envie de soutenir Radio Présence avec leurs dons. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.